m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Si, je...
Au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Amis du lundi, Hardy, bonsoir et bienvenue pour cette édition de rentrée de Restons Courtois. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie, ça fait plaisir de vous retrouver après un mois d'absence en direct. En tout cas, on vous avait laissé quelques émissions, quelques petites pépites qui, j'espère, vous ont fait plaisir. Et la semaine dernière, Richard de Seize a bien voulu me remplacer pendant que j'étais parti en Inde pour essayer de faire connaître notre radio dans le monde entier. Au menu du jour, donc, un champion, non pas du libéralisme du type MEDEF, mais un champion des libertés. Ça sera Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, qui nous fait le plaisir de faire, lui aussi, sa rentrée au micro de Radio Courtoisie. On l'attend d'un instant à l'autre. Il m'assure qu'il arrive dans 3 minutes, donc vous pouvez compter avec nous. Avec lui, nous allons revenir sur son nouvel ouvrage, donc « La liberté ou la mort », qui est paru aux éditions Fayard. Mais nous annoncerons aussi sa grande fête des libertés qui aura lieu le samedi 19 septembre et qui s'ancre évidemment dans la perspective de l'élection présidentielle à venir. Et puis nous balayerons avec lui également une actualité qui est très riche et tout cela donc pendant une heure. Alors n'hésitez pas à vos claviers si vous avez des messages ou des questions à poser au président de Debout la France. Ensuite nous passerons à notre traditionnel rendez-vous de la réinformation. Avec au menu le passage de Marine Le Pen au débat du MEDEF, au MEDA du haut. Ça fait un mois que je suis pas venu. Hein. Au débat du MEDEF, et donc nous parlerons aussi du départ de son conseiller économique François Durvie. On essaiera de voir si cela change quelque chose, si cela a un impact, un intérêt majeur pour l'élection ou pour les commentateurs qui verront peut-être quelque chose d'important. Nous parlerons aussi de l'annonce assez limpide du nouveau grand maître du Grand Orient de France. Grand maître du Grand Orient, ça fait très très sérieux.
Respect.
Ah, quand même. Qui a clairement dit que son organisation secrète allait s'investir dans les... si, c'est vrai.
Elle n'est plus très secrète, là.
Ça reste quand même. Vous verrez qu'en Angleterre...
C'est une organisation discrète.
Discrète.
Mais une normalement, secrète qui fait des communiqués de presse, c'est quand même étonnant.
C'est une organisation de moins en moins discrète.
C'est secret sur les modalités de fonctionnement, sur les rituels, sur, et notamment sur l'appartenance. À part le grand maître, qui lui, un peu comme le grand maître de la main occulte, qui est Arthur de Vatrigan et qu'on connaît bien, et qui lui s'affiche à ciel ouvert, les autres membres de la main occulte, comme ceux de la franc-maçonnerie, sont secrets. Et donc ce monsieur, ce grand maître, a clairement dit que son organisation secrète ou discrète allait s'investir dans l'élection présidentielle avec un mot d'ordre, faire barrage aux extrêmes, et puis surtout évidemment l'extrême droite. Alors la question c'est comment les francs-maçons vont-ils s'y prendre? Useront-ils de méthodes transparentes ou opaques, officielles ou officieuses? Eh bien réponse dans un instant. Nous parlerons aussi de la multiplication des candidatures, plus ou moins sérieuses, plus ou moins farfelues, et puis voilà, pour comprendre un peu à quoi cela peut bien servir, notamment pour quand on est chanteur, boursicoteur, journaliste ou amuseur public, de se présenter à l'élection présidentielle. Et puis nous terminerons par le projet de parc à thème, financé en France par l'Arabie Saoudite à hauteur de 6 milliards d'euros pour, a priori, 3 parcs d'attractions. Et parmi les sujets envisagés, donc des personnages de manga et surtout une possibilité pour le pays à la tronçonneuse, non, au sabre, sabre ou tronçonneuse.
Ça dépend si c'est une exécution officielle ou secrète.
Ouais, c'est ça. Ça permettra donc à l'Arabie Saoudite de diversifier son économie, de renforcer son implantation dans le marché français avec le soutien actif d'Emmanuel Macron et d'un gouvernement qui, en parallèle, tient soigneusement à l'écart le Puy du Fou. Malgré des récompenses internationales qu'ils reconnaissent pourtant comme le meilleur parc du monde. Voilà, il est peut-être un peu trop traditionnel.
C'est peut-être une bonne chose pour le Puy du Fou.
Eh bien, nous vous poserons la question tout à l'heure, dans un instant. Voilà, pour parler de tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir les écoliers de la réinformation avec Richard de Seize, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie,
bonsoir.
Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect, Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, et puis nous serons rejoints par Xavier Van Leer, journaliste, et par Alexis Poulain du Monde Moderne. Dans un instant, ils nous ont annoncé qu'ils seraient un peu en retard. En attendant, chers auditeurs, vous pouvez, je vous le rappelle, poser vos questions à Nicolas Dupont-Aignan qui vient de nous rejoindre. Merci à lui d'être à l'heure.
Bonsoir, oui.
Ah bah si, vous êtes
j'ai
à l'heure.
J'ai 3 minutes de retard, j'en suis convaincu.
On est en train de parler, on est en train de faire l'introduction générale, donc tout va bien. Vous pouvez nous écrire, et vous pouvez surtout écrire à Nicolas Dupont-Aignan, vous pouvez lui envoyer vos questions et vos remarques en téléphonant au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou en écrivant un courriel à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Alors, je me tourne donc vers Nicolas Dupont-Aignan, qui est l'auteur donc récent d'un ouvrage qui s'appelle « La liberté ou la mort », paru chez Fayard. Et Nicolas Dupont-Aignan, donc vous êtes venu présenter votre ouvrage à Radio Courtoisie avant l'été, mais voilà, je pense que c'est intéressant et important même d'y revenir, puisque ça n'est pas un livre qui a une espérance de vie de 2 ou 3 mois, c'est quand même un manifeste pour le pays, donc ça a un intérêt permanent, a priori.
J'espère. Et vu le temps que j'ai passé.
Exactement. Et avant de nous parlerons donc de ce livre, avant de nous projeter vers l'actualité, vers votre fête des libertés qui arrive sous peu, et puis on parlera peut-être aussi du référendum en Islande, qui a dû, je m'avance un peu, mais qui a dû vous réjouir. Et puis nous parlerons évidemment de la campagne électorale pour la présidentielle. Alors votre livre est un ouvrage de combat qui retrace évidemment, mais qui retrace les grandes étapes de votre parcours, avec beaucoup d'anecdotes, souvent méconnues, mais qui est aussi destiné à réveiller les consciences, à mobiliser les énergies, particulièrement les abstentionnistes. J'ai noté quand même un soin particulier sur l'abstentionnisme. Face à ce qui commence à ressembler un peu à une bataille de la dernière chance. Je voulais revenir peut-être un peu sur cet ouvrage, notamment sur vos origines, votre jeunesse. Vous parlez notamment de votre grand-père qui était un héros, un aviateur de la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des origines?
Je ne sais pas si c'est passionnant, mais en tout cas...
Tout de même, vous l'avez écrit, donc oui, vous intéresse.
Non, en fait, j'ai essayé d'expliquer d'où je venais et pourquoi il ne fallait pas se décourager. Parce qu'en fait, je constate... En échangeant avec mes concitoyens, à chaque déplacement que je fais, que ce soit bien sûr dans ma ville ou dans ma circonscription, mais au-delà, je constate à chaque fois la même réaction. Un sentiment de lucidité des Français sur la dégringolade, le naufrage, et quand même, reconnaissons-le, une grande résignation. Avec à chaque fois cette phrase terrible, « Ah, vous êtes Monsieur Dupont-Aignan, c'est bien ce que vous faites, mais c'est trop tard. » Ce « c'est trop tard » m'a beaucoup bouleversé et je me suis dit qu'il fallait réfléchir d'ailleurs si finalement ils n'avaient pas raison. Est-ce que c'est pas trop tard? C'est un peu comme un pape qui n'aurait plus la foi. Je ne peux pas être candidat à la présidentielle et me dire « c'est trop tard ». Et si je pense que c'est trop tard, ça n'a aucune raison de s'emmerder à faire une campagne présidentielle qui n'est pas... un parcours facile. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi, écrit pendant 2 ans, et je me suis dit non, c'est pas trop tard, parce que si on regarde l'histoire de France, d'ailleurs cet été j'ai relu la magnifique histoire de France de Jacques Bainville, que je vous recommande, qui est une histoire de France absolument fabuleuse, et vous vous apercevez qu'il n'est jamais trop tard pour un pays qui a envie de vivre. Simplement la vraie question c'est de savoir si les Français ont envie de vivre libre. Certes, ils peuvent vivre comme des limaces, ils peuvent vivre en s'appauvrissant, ils peuvent vivre en étant résignés, mais il faut qu'ils sachent dans quelles conditions ils vont vivre. Et mon livre, je l'ai écrit en expliquant mon parcours familial et en expliquant pourquoi j'étais peut-être un peu illuminé, parce que j'avais eu ce grand-père qui était un aviateur, les premiers aviateurs de la guerre, qui avait survécu à tout, parce que j'ai eu des parents résistants et que ça m'a appris peut-être, par les souvenirs, que si on veut vivre libre, il faut se battre. Et il faut avoir le courage de se battre. Et j'ai essayé dans ce livre d'en tirer des leçons pour aujourd'hui. Et j'en suis arrivé à la conclusion, parce que c'est ça qui est important pour moi, que si on n'avait pas le courage de se libérer de l'Union européenne, de se responsabiliser à nouveau en pays libre, capable de maîtriser son destin, eh bien, on serait incapable de résoudre nos problèmes. qu'on élirait un gouverneur d'une colonie qui s'appelle France. Et que la vraie question dont je veux faire l'enjeu de la présidentielle, et c'est pourquoi je suis candidat, c'est de savoir si les Français veulent élire un gouverneur du Texas, France, de la Floride, France, c'est-à-dire quelqu'un qui aura certes des leviers d'action. Je ne vais pas vous dire que le futur président de la République dans le cadre européen ne servirait à rien, ça serait idiot dans l'autre sens. C'est un peu le risque parfois des souverainistes. Mais qui resterait en tout cas à gérer les affaires courantes et à ne pas organiser le sursaut du pays. Et je pense que si on veut résoudre la question migratoire, soyons très concrets, la question de la sécurité, la question de la réindustrialisation, la question de l'agriculture, la question du prix de l'énergie, des questions fondamentales, concrètes, c'est pas abstrait ce que je raconte. Il faut reprendre notre liberté. C'est comme un boxeur qui voudrait faire un match de boxe avec les mains attachées dans le dos. Ça ne peut pas marcher. Et ce que je crains, et j'ai vu le débat du MEDEF où j'étais pas invité évidemment, ce que je crains, c'est qu'on nous refasse une présidentielle, une fausse présidentielle, c'est-à-dire qu'on nous amuse. Et moi, j'ai pas envie qu'on m'amuse une fois de plus. Donc, je suis candidat pour essayer de dire ma vérité et de réveiller les Français sur cette nécessité absolue de reprendre notre indépendance et de réinsuffler de la démocratie directe. C'est-à-dire, parce que les deux vont de pair, souveraineté populaire et souveraineté nationale.
Jean-Yves Le Gallou avait une question à vous poser, ou une remarque à faire.
Je ne sais pas. Oui, j'ai une remarque à faire, je partage assez largement le point de vue de Nicolas Dupont-Aignan, mais aujourd'hui, la France a un gouverneur, et elle en aura un en 2026 ou 2027, mais ce n'est pas le président de la République, non. C'est le président du Conseil constitutionnel. Parce que même si on sort de l'Union européenne, la souveraineté, elle reste dans les mains du président du Conseil constitutionnel qui applique et interprète à sa manière la Convention de Genève, la Convention européenne des droits de l'homme, le préambule de la Constitution, et on ne peut absolument rien faire. Aujourd'hui, je pense que le vrai blocage, c'est le pouvoir des juges en France, alors qu'il s'adosse en partie, c'est vrai, sur des textes internationaux et surtout sur l'interprétation de textes internationaux, mais le vrai problème, il n'est pas la souveraineté, elle n'est pas seulement, c'est pas seulement un problème extérieur, c'est aussi un problème intérieur.
Alors oui et non. Non parce que je veux rétablir la primauté du droit national sur le droit européen, qui est la question clé de notre démocratie. Et déjà, on enlèvera au Conseil constitutionnel une base très importante d'interprétation jurisprudentielle et législative, puisque le Conseil constitutionnel, malgré ses excès, et là je suis d'accord avec vous sur lequel je vais revenir, interprète aussi des traités qui ont été signés, et j'ai voté contre à chacun d'entre eux, qui ont été signés par le pouvoir, et dont le pouvoir aujourd'hui s'accommode, et dont les autres candidats alternatifs s'accommodent désormais. C'est
Qu'est-ce
ça la grande nouveauté.
Un candidat alternatif
Le RN, pour être clair. Désormais, a acté qu'il voulait rester dans l'Union européenne. Donc je mets au défi Marine Le Pen de nous expliquer comment elle va régler la question de l'immigration, de la réindustrialisation, de l'agriculture, en restant dans cette prison. Bon. Mais vous avez raison sur un autre point. Voilà pourquoi je suis pour le référendum d'initiative citoyenne constituant à la Suisse. Car je pense que la question n'est pas simplement l'indépendance, elle est aussi la démocratie. Et le référendum d'initiative constituant permettrait de ratiboiser le Conseil constitutionnel et de le faire rentrer dans sa couche. Ce que j'appelle dans sa couche, c'est-à-dire sa couche de 1958.
Oui.
Car vous savez très bien que le Conseil constitutionnel, dans ce coup d'état des juges, utilise un bloc de constitutionnalité qui...
Inventé,
où il y a tout et le contraire de tout, et en fait une interprétation législative. Et donc, il est fondamental de reprendre la main par le référendum. Et le référendum article 11, et là je suis d'accord avec Marine Le Pen pour le coup, où j'entends parler d'un référendum sur l'immigration, le droit du sol, qui serait par l'article 11, au même temps que les législatives qui suivraient la présidentielle, et ce serait une très bonne chose. Le général de Gaulle l'a fait, tout le monde a gueulé à l'époque, et il a bien eu raison de le faire, sinon on n'aurait pas d'élection au suffrage universel du président de la République.
Jean-Yves Le Gallou.
Alors, par rapport au référendum, alors vous parlez d'un référendum... d'initiative constituante.
Oui.
Donc, formellement, il faut passer par l'article 89.
Non.
Moi, je suis... Mais où
non,
il
je
faut,
veux modifier la Constitution.
Où il faut je veux faire violer le Conseil constitutionnel.
Il faut,
ce qui me paraît un objectif tout à fait raisonnable.
Ça a déjà été fait par le général de Gaulle
oui,
en 62.
D'accord.
Mais c'était pas les mêmes, Nicolas Dupont-Aignan. Je veux dire, on
Richard
a
de Sèze.
Le général de Gaulle a violé le Conseil constitutionnel.
Non, non, il a interprété sa Constitution.
Il a interprété d'une manière très large,
très large,
contre l'avis d'une partie de la classe politique.
Tout à fait.
On peut pas dire de l'intégralité de la classe politique.
Oui.
Et le Conseil constitutionnel, à l'époque, l'a accepté. Avec la manière dont le Conseil constitutionnel s'est rebellé contre Valéry Giscard d'Estaing.
Mais attendez, qu'est-ce qu'il va faire?
Eh ben, par exemple,
Monsieur Juppé et la cohorte de conseillers et de sages vont manifester dans la rue.
Mais admettons qu'ils disent c'est illégal, vous n'avez pas le droit.
Le peuple tranchera.
Eh ben, non, mais est-ce que le peuple pourra aller aux urnes?
Mais bien sûr.
Vous êtes un maire de gauche. Enfin, pas vous, Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes un maire de gauche. Le Conseil constitutionnel dit ce référendum est illégal. Et le maire en question dit, évidemment, je suis un bon républicain et l'état de droit prime surtout, je n'organise pas le référendum dans ma ville.
En tout cas, ce sera dans mon projet présidentiel et si les Français le ratifient, eh bien ce sera ainsi. Parce que les Français ont bien compris que la petite Liana, qui a été assassinée par un pédocriminel, que le nombre de meurtres qu'il y a eu partout, est la conséquence de cet état de droit qui n'est plus un état de droit. Qui est la négation de la démocratie et du suffrage universel. Donc, il y a un moment, il faut appeler un chat un chat. Est-ce que les Français veulent qu'on règle leurs problèmes ou est-ce qu'on continue ce jeu de rôle? C'est ça que moi, je vais poser comme question.
Ça, c'est la bonne question.
C'est la question fondamentale. Oui, mais attendez, il faut déjà qu'il y ait quelqu'un qui la pose.
Oui, oui.
Parce que moi, je vais être très franc. J'étais 3 fois candidat. J'ai vraiment hésité à y aller une 4e fois. Parce que si quelqu'un de plus connu que moi, avec des meilleurs sondages que moi, pouvait dire la même chose, j'en serais ravi. Je le suivrais, je l'applaudirais. Mais je découvre qu'au moment où je pense qu'il y a une prise de conscience du peuple français sur tout ce qu'on dit depuis 30 ans, et c'est à ce moment-là que les partis d'opposition et d'alternance s'évanouissent.
Mais est-ce que vous
c'est très impressionnant. Alors, je peux comprendre le caractère tactique.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Et que ça peut se faire sur le long terme, parce que ça peut se bâtir sur 50 ans, une sortie de l'Union européenne.
Oui,
on n'est pas obligé de tout faire.
Je peux comprendre.
Ah, si.
Non, mais je peux comprendre. Non, mais soyons clairs. Parce que je ne veux pas mettre d'huile sur le feu. Je peux comprendre la volonté du Rassemblement national d'avancer masqué et de se dire je vais y aller en douceur et je ne veux pas affoler les Français sur une sortie de l'Union. Sauf que je pense sincèrement que si on ne dit pas la vérité aux Français maintenant, on va les tromper. Et je pense que la moindre des choses, c'est qu'on ait une campagne présidentielle en 2027, où il y ait plusieurs offres sur la table, du moins au premier tour, en espérant que ça se transforme au second, pour dire aux Français, voilà, moi je vous présente une offre clé en main, où je vous dis, si vous voulez résoudre la question migratoire, il faut rétablir des frontières nationales, et pas une double frontière. Vous avez vu que le Rassemblement national a abandonné la frontière nationale, et revient à une double frontière. Ça, je ne connais pas. Je veux rétablir la primauté du droit français sur le droit européen. C'est blanc ou c'est noir.
Alors,
c'est pas entre deux. Parce que sinon, si les patriotes font du en même temps, le danger, c'est de perdre sur tous les tableaux. Et je crois qu'en tout cas, il y a le devoir, en tout cas moi j'ai le devoir, de présenter cette offre de rupture. Et je suis convaincu que jamais quelqu'un de sérieux dans la vie politique n'a présenté cette offre de sortie de l'Union européenne et de reconstruction d'une Europe des nations, de coopération. Moi, je ne suis pas un couteau entre les dents à vouloir déclarer la guerre à tous les pays d'Europe. J'ai jamais fait du Frexit espèce de totem qui exonérerait les Français d'un effort national.
Dans votre livre, vous écrivez « Le Frexit est un préalable, mais pas une fin en soi ». Donc, c'est-à-dire que vous prenez vos distances avec, pour dire les choses clairement, avec Florian Philippot, avec François Asselineau, et en même temps, donc vous situez dans un mi-chemin entre le Rassemblement National et...
Je dis que Florian Philippot et François Asselineau ont raison dans leur analyse, totalement, mais que le Frexit ne peut pas être perçu comme une sorte de solution miracle dispensant d'un effort national. Et que je vais présenter un programme cohérent dont le livre, j'ai mis 2 ans à l'écrire, et la synthèse, et je vais le simplifier évidemment, pour dire que ça repose pour moi sur un triptyque, démocratie, référendum, pour reprendre le pouvoir à l'oligarchie, qui a capturé le pouvoir, indépendance pour reprendre le pouvoir à cette structure monstrueuse qui est devenue l'Union européenne et qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'idée européenne, et puis ensuite du bon sens, faire des économies là où on peut, investir dans la science, réapprendre l'école publique, et ça c'est pas l'Europe, etc., etc. Donc tout n'est pas manichéen.
Un travail aussi sur les normes, parce qu'honnêtement, là je reviens d'Inde pour le coup, où objectivement on est en train, nous, de se tiers-mondiser pour de vrai, c'est-à-dire par rapport à l'Inde et à la Chine qui montent, parce qu'ils n'ont pas de normes restreignantes et asphyxiantes, et ils sont en train de nous mettre un siècle de nouvelles révolutions industrielles, si je puis dire, numériques, et avec l'intelligence artificielle dans la vue. C'est-à-dire, nous allons vraiment nous tiers-mondiser, et c'est en partie à cause de ces normes étouffantes. Vous veniez de publier, d'ailleurs, je crois, sur X, un message...
Sur la facturation électronique, là, c'est gratiné.
La facturation électronique, et les salades également, qui m'a un peu... peiné pour les malheureux agriculteurs quoi, qui sont complètement asphyxiés.
Mais si vous voulez, ces normes s'ajoutent aussi au niveau européen, au niveau national, on surnorme nous aussi. Donc, mais pourquoi on surnorme? Moi je le vois bien en tant que maire. Parce que l'administration française ne s'occupant plus des choses importantes, n'ayant plus le vrai pouvoir, eh ben, elle a besoin d'occupation. Et donc elle se déverse dans un délire normatif, faute de pouvoir aller à l'essentiel. Et donc je crois que...
Elle pourrait avoir un vrai pouvoir dans le domaine régalien. Qui est quand même encore du domaine de l'État, en large partie, et qui est complètement délaissé.
Oui, construction de places de prison qu'on a réclamé 100 fois, etc. Mais si vous ne changez pas la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les jurisprudences de la CJCE de l'Union européenne, les directives, mais on n'y arrivera pas. Il faut avoir le courage de le dire et il faut le proposer aux Français. Et je suis certain qu'il y a des millions de Français qui sont prêts à reprendre le chemin des urnes si on leur propose une vraie rupture programmée, j'allais dire sérieuse. Et vous parliez des abstentionnistes. Je pense que la clé de la renaissance française, pour le coup, elle est chez les abstentionnistes. Parce que j'ai regardé les chiffres. 48 millions d'électeurs. Il y a 4 à 5 millions de personnes non inscrites déjà. Hein. Et sur ces 48 millions, à une présidentielle, il faudrait que vous vérifiez les chiffres, je ne vais pas me tromper, il y a bien 15 millions d'abstentionnistes pour les présidentielles. 15 millions d'abstentionnistes. Quand vous faites 5% des voix, c'est 2 millions. C'est 15 millions d'abstentionnistes d'une présidentielle, admettons 5, le tiers. Si on refait voter le tiers des abstentionnistes, et je ne parle pas de ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes, donc ça fait le quart. Si on fait, reprendre le chemin des urnes, 25% de ceux qui ne votent plus ou qui ne sont pas inscrits, vous bouleversez le premier tour.
Pardonnez-moi, Nicolas Dupont-Aignan, c'était exactement le pari d'Éric Zemmour en 2022.
Oui.
Mais là, par contre, on a vu justement que ce réservoir de voix ne s'est pas mobilisé.
Il s'est mobilisé pour une partie pour Mélenchon. Et c'est d'ailleurs sur ce réservoir que compte Mélenchon.
Oui.
Et n'oubliez pas que...
Il compte sur le réservoir abstentionniste ethnique aussi.
Oui, bien sûr. Mais je mets tout le monde dans le même lot. Et je pense que la clé de la présidentielle de 2027 va être chez les abstentionnistes. Et que je m'adresse à eux, et notamment beaucoup d'abstentionnistes souverainistes qui avaient voté non en 2005. Car quand même le non a fait 55% des voix, il y a 20 ans. Où ils sont passés, ils font pas 1% des électeurs de Philippot ou d'Asselineau. Donc il y a bien un moment, il faut les réveiller. Alors beaucoup d'entre eux ont confiance dans le Rassemblement National, et très bien, moi je ne vais pas polémiquer pendant cette campagne tous les matins avec le Rassemblement National, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'on doit être plusieurs.
Votre ennemi.
Exactement. Et mon ennemi, c'est Jean-Luc Mélenchon, et c'est le macronisme. Mais je veux qu'ensuite, on réussisse. Et pour réussir, il faut qu'on ait un chemin. Et que ce ne soit pas le marécage. Parce qu'il faudra aussi mettre fin par référendum au mandat de tous les présidents de la Cour des comptes, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Banque de France, qu'a nommé Emmanuel Macron. Ça, ce sera dans mon programme. Alors c'est pour ça que peut-être que le MEDEF ne veut pas m'inviter, parce que moi je vais dire que dans mon programme, je mets fin aux fonctions, par la réforme constitutionnelle, de tous les chiens de garde qu'Emmanuel Macron a nommés aux plus hautes instances de l'État pour empêcher l'alternance.
Arthur de Vatrigan.
Est-ce que, pour appliquer ce programme, c'est-à-dire récupérer notre souveraineté, la primauté du droit français sur le droit européen, est-ce que nous sommes obligés de sortir de l'Union européenne ? Deux exemples, un de cet été que j'ai découvert qui m'a beaucoup amusé, incendie. D'un coup, on se reprend de passion pour les pompiers. 250 000 pompiers en France, dont 200 000 volontaires. Et j'ai découvert qu'il y avait eu un jugement de l'Europe sur un pompier roumain, je crois, ou polonais, je ne sais
Après
plus.
Après le plombier polonais, le pompier roumain.
Expliquant qu'on ne pouvait plus avoir de statut de pompier volontaire. Et donc ça devait être appliqué en France. Ça nous aurait fortement foutu dans la mouise, étant donné que s'il n'y a plus de pompiers volontaires, il y a 200 000 pompiers en moins, et donc voilà. Et le Conseil d'État a dit, je reconnais le jugement, mais ça ne marche pas pour la France. Donc, ça veut dire que lorsque ça ne va pas dans l'autre sens ou dans le sens des juges, on peut très bien les envoyer paître. Et je me dis qu'on peut très bien rester dans l'Union Européenne et faire comme les Allemands, c'est-à-dire en fonction de nos intérêts, on respecte ou on ne respecte pas. Parce que qu'est-ce qui va se passer si on dit non à Van der Leyen, elle ne va pas nous envoyer une armée. Elle peut nous faire des sanctions financières, sachant qu'on est contributeurs positifs, ça va les mettre dans la mouise aussi. Donc ma question, c'est pourquoi sommes-nous obligés de sortir de l'Union Européenne pour respecter les intérêts français, c'est-à-dire de dire ça je prends, ça je prends pas, en fonction de ce qui nous avantage ou pas.
Alors pour être très franc, j'ai longtemps été sur votre ligne. Et j'explique dans mon livre pourquoi j'ai changé d'avis. C'est-à-dire que j'ai longtemps pensé, et j'ai longtemps dit, donc vous pouvez retrouver toutes mes déclarations, qu'il suffisait de taper du poing sur la table, et comme De Gaulle, pendant la crise de la chaise vide, on allait taper du poing sur la table. Mais c'est en creusant après un peu, et regardez, il y a un bouquin extraordinaire, il vient à la fête de la liberté que j'organise le 19 septembre, de Ghislain Bénessa.
Ghislain Bénessa, qui est un habitué de Radio Courtoisie.
Qui est un type génial, qui a écrit un livre absolument merveilleux, qui s'appelle « Les vrais maîtres du pouvoir », où j'ai plus en tête le
aux éditions de l'Artilleur.
Voilà, je vous le recommande vraiment. C'est-à-dire que, au fil du temps, ce qu'a fait De Gaulle en 62, en fait, il n'a pas réussi. Ça a été transitoire, parce que c'était De Gaulle. Et une fois De Gaulle parti, les gouvernements français se sont écrasés. C'est-à-dire que la machine normative de Bruxelles et des juges est tellement impressionnante. Elle avance tellement vite et elle va vers le coup d'État fédéral par la faillite de la France. C'est pour ça que Macron s'en fiche complètement de la dette. C'est le moyen, dans un moment hamiltonien américain, comme Hamilton avait fait aux États-Unis pour créer le fédéralisme américain, par la faillite des États. Par la faillite des États et par la guerre, et c'est les deux obsessions de Macron, faire la guerre à la Russie et mettre en faillite la France. Parce qu'il sait qu'on crée un État fédéral comme ça. Donc, si vous voulez, il y a 10 ans, on pouvait penser, on serait arrivé au pouvoir il y a 10-15 ans, bon, à la rigueur, Philippe Séguin serait arrivé au pouvoir, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Ou Jean-Marie Le Pen ou un autre. Mais aujourd'hui, moi je pense que le système est tellement fort que le pauvre président ou la pauvre présidente qui un jour va dire ça, le lendemain va dire ça, ça sera fini. Et ils avancent. Je crois que les Français ne réalisent pas, et moi-même je ne réalisais pas, et pourtant je suis ces affaires depuis longtemps, à quel point l'étau de Bruxelles se resserre. À quel point il se resserre. Alors vous avez raison en partie, il se resserre parce qu'il a des complices en France. Mais il se resserre quand même. Et vous pouvez avoir un président un peu plus souverainiste pendant 4-5 ans, qui va peut-être freiner les choses. Moi, je ne veux pas tomber dans la caricature, il n'y a que moi qui sauve la France, ce serait ridicule. Mais en revanche, je pense qu'il faut un vrai débat. Et je suis certain que le débat sur l'appartenance à l'Union européenne par un référendum sera la question existentielle de la France des 20 ans prochains. Et je veux la mettre sur la table. Et je veux qu'il y ait des candidats souverainistes aux législatives. Je veux que ça devienne une question. Parce que sinon, le pays va disparaître. J'en suis certain. Donc, il faut que les souverainistes, et je leur lance un appel, se réveillent à la présidentielle, m'aident au maximum, qu'on crée un courant politique, qu'on oblige les médias à en parler, puisque c'est le grand silence.
Alors, concrètement,
personne n'en
qui
parle.
Placez-vous parmi les souverainistes? Vous faites dans votre
tous
livre,
ceux qui aiment la France.
Vous faites un scénario de politique fiction. Je vais vous citer. Parce que
oui, alors j'en ai oublié qui ont été vexés, puis j'en ai mis qui ne sont pas contents. Bon.
c'est pour rire, mais c'est symbolique.
Mais c'est intéressant.
Alors, donc en gros, l'idée, c'est qu'il y a un président souverainiste qui affronte, une fois qu'il est élu, Bruxelles, pour dire les choses simplement, l'appareil d'État français, et pour tenter de redresser notre pays. Alors, je vous cite. Fermons les yeux et imaginons, comme dans un conte de fées, la présence autour de la table du Conseil des ministres de Philippe de Villiers, garde des Sceaux. d'Henri Guénaud aux Affaires étrangères, d'Arnaud Montebourg ou Marc Toiti à Bercy, qui serait renommé ministère de la Souveraineté industrielle, ou encore Marine Le Pen, ou Jordan Bardella, là ça sera plutôt Marine Le Pen, oui. Place Beauvau, Estelle Youssoufa aux Outre-mer, Marion Maréchal à la famille, Jean Lassalle à l'aménagement du territoire, Michel Onfray aux universités, Natacha Polony à l'instruction publique, Sonia Mabrouk à la culture, Véronique Le Floch à l'agriculture, Georges Kouzmanovitch à la Défense nationale, Didier Raoult, Christian Perron à la santé, Juan Branco à la réforme de l'État, Sarah Knafou au budget, Yamina Amsal à la recherche, ou Malika Sorel aux affaires sociales. Moi, je l'aurais vu ambassadrice de France en Algérie. ou enfin, Arnaud Bouglet... Non, je sais pas. Arnaud Bouglet à l'énergie et Alexandre Jardin comme porte-parole. C'est un beau projet d'union des droites, d'ailleurs, oui, l'air de rien.
Il en manque.
Il en manque, évidemment,
en
tout le temps.
Parce qu'il y a des tas de personnes.
Mais vous n'allez pas faire un ministère, enfin, un gouvernement avec 300 ministères, donc...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ce que j'ai voulu dire par là, quand on y réfléchit, il y a des talents incroyables dans notre pays. Il y a des talents, il y a des personnalités qui ont tout dit. On est émiettés. C'est pas possible. Donc, il faut arriver à... Mais, cette idée de l'union des amoureux de la France, des patriotes, on tourne autour depuis des années. Je pense qu'en fait, elle vient d'un projet.
Et ces gens pourraient nous soutenir ?
Un projet simple. Oh bah ça, ils soutiendront si je monte dans les sondages, sinon ils soutiendront jamais.
On sent l'expérience.
Je
me fais aucune illusion. Mais je m'en fiche, c'est plus le problème. Là, je vais vous dire, moi, je mets toute ma vie dans cette affaire. J'ai écrit ce livre après, vraiment, j'ai mis 2 ans à l'écrire. Et j'ai avancé dans ma réflexion parce que les gens croient toujours qu'un homme politique, il sait tout, il évolue, on réfléchit, on voit. Et je pense que c'est la question centrale à laquelle n'échappera pas la France. C'est la question centrale. Est-ce qu'on veut rester une démocratie ? Est-ce qu'on veut subir des décisions d'ailleurs ? Ou est-ce qu'on le reprend la maîtrise ? Et je pense qu'en fait, on commence tout juste à en parler... Parce que les Français vont commencer seulement à partir de 2027 à payer dans leur vie quotidienne la facture des 30 ans d'avant. C'est-à-dire, tant que les Français ne verront pas leur retraite divisée par 2, tant qu'il n'y aura pas le drame financier qui s'annonce, tant qu'on n'enverra pas leurs gamins mourir en Ukraine, tant que Mme von der Leyen ne les fliquera pas, et leur fera des redressements, et leur interdira de regarder des sites d'information. Ils ne réaliseront pas. Et tout à coup, ils vont se réveiller en se disant « mais on est occupé ». Je suis provocateur, mais ce que je veux dire, c'est comme la facture n'est pas arrivée, que les médias endorment le pays.
La facture arrive quand même tout doucement.
Hein. Oui, mais elle n'est pas arrivée. La majorité des Français ne sont pas encore souverainistes. Puisqu'ils ne payent pas les dégâts de ceux qui leur ont fait croire que ce système européiste allait les sauver.
L'effondrement de leur niveau de vie, c'est quand même un signal. Quoi, non ?
Oui, mais ils ne font pas le lien encore. Parce que personne ne fait le lien. Le prix de l'électricité, il est automatiquement lié à l'Union européenne. Le prix du gaz, il est automatiquement lié à la folie de la guerre en Ukraine. Donc, à un moment, moi je veux... profiter de cette campagne pour ouvrir les yeux de mes concitoyens qui ne les ont pas encore ouverts. Parce que à quoi sert la politique si c'est pour suivre la majorité dominante des rédactions parisiennes qui se sont plantées sur tout depuis 20 ans.
Arthur de Vatrigan avait une
question. Est-ce que la sortie de l'Union européenne a comme conséquence la sortie ou de l'euro, quitter l'euro ?
À terme, oui. On peut dissocier les preuves. Mais à l'inverse, je peux vous dire que la sortie de l'euro est inéluctable avant la sortie de l'Union européenne, quel que soit le président qui arrivera. Parce que je doute que nos voisins continuent à payer, à supporter les déficits français, et je sais totalement impossible la potion de rigueur à la grecque en France. Donc, de toute façon, on avance vers le mur, et la sortie de l'euro est inéluctable et bénéfique. Parce que, contrairement à ce qu'on a dit à nos retraités, c'est le maintien dans l'euro qui va leur faire disparaître tout leur fonds d'épargne. Quand Mme von der Leyen va décider avec Mme Lagarde de kidnapper leur épargne, les Français vont comprendre. Et c'est pourquoi je pense que le redressement économique de la France passe aussi par le rétablissement d'une monnaie nationale. Mais passe aussi par un plan de rigueur adapté. Comme l'avait fait le général de Gaulle, tout le monde se réjouit du plan RUEF de Gaulle de 52-58. Mais il a marché parce que la France a dévalué de 40%. Vous faites le même plan avec un euro, vous finissez comme la Grèce, et avec la Révolution en France et Mélenchon au pouvoir. Ne vous trompez pas. Donc, il y a un moment où il faut être réaliste. Je regardais les chiffres, là. Alors, je sais que ce n'est pas populaire, là. Je sais qu'on me dit qu'il ne faut surtout pas le dire. Je le dis. La Pologne, qui est un miracle économique, il faut aller en Pologne voir ce qui se passe. Dévaluation depuis 2000 de 25%. La Suède, dévaluation. C'est-à-dire tous les pays qui réussissent en Europe, ils sont pas dans l'euro. Curieux. Tiens, on ne le dit jamais, ça. Alors, attention. D'ailleurs, j'ai même vu monsieur de la Rosière, grand avocat de l'euro, expliquer tout récemment dans une émission que, ah oui, l'euro s'était ennuyé, ça avait déresponsabilisé nos gouvernants. Ah bah oui. Ah bah oui. Donc, je sais que c'est pas populaire, mais de toute façon, que je sois président ou pas président, vous verrez que l'euro explosera dans les 10 ans qui viennent, et qu'il faudra réapprendre la liberté. La France doit réapprendre à la liberté. C'est impératif. Ou alors, on devient, oui, une région, ce que voulait Macron. Une petite région. Vraiment, relisez cette histoire de France de Jacques Bainville, vous savez, ce grand historien du 19e, qui est fabuleux. Et j'ai lu 20e. Ça cet été. Et très intéressant. Très intéressant.
Jean-Yves Le Gallou.
Oui, deux remarques. Je crois qu'il y a un État profond européen, mais il y a aussi un État profond français. Et. C'est tout à fait différent quand l'État profond français veut aller dans le sens de l'État profond européen et quand l'État profond français veut aller dans le sens contraire. Je prends deux exemples. En ce qui concerne les pompiers, ça fait plus de 20 ans que les services de la sécurité civile, etc., sont inquiets par la démarche européenne qui devrait mettre en cause le système des volontaires, au regard des droits du travail, etc. Et ça fait 20 ans, comme l'a dit Arthur de Vintrigan, que ça résiste. Dans un autre domaine, quand il s'agit de créer des éléments comme la carte d'identité électronique qui est maintenant en place, ou le contrôle des réseaux sociaux, quand l'État français, l'État profond français, ne peut pas le faire directement, il passe par l'Europe, et après il dit « Ah ben c'est l'Europe ». Et donc, si l'État français résiste à l'État profond européen, ben ça résiste. Si l'État profond français utilise l'État profond européen, ce qui est quand même très souvent le cas, notamment en matière de liberté, eh bien, ça avance. Donc, c'est pas parce qu'on sera débarrassé de l'État profond européen qu'on sera débarrassé de l'État profond français.
Il y a une seule différence. C'est qu'on rétablit quand même une démocratie minimum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'on est encore en démocratie quand les décisions sont prises sans aucun contrôle parlementaire, par des directives, des règlements qui sont négociés par les ministres.
Ou des décisions du Conseil constitutionnel.
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui,
mais qui se renforcent.
C'est le Conseil constitutionnel.
Une oligarchie gouverne la France. Mais les amis, si cette oligarchie avait des résultats, moi, je pourrais dire, écoutez, je suis pas d'accord, ça me fait de la peine parce que j'aime le drapeau tricolore, parce que je suis un vieux ringard de français, parce que j'aime la culture française, j'aime l'écriture, j'aime la lecture, j'aime tout ce que je veux, je suis dépassé, il faut que j'aille me en retraite, bonsoir, au revoir les amis.
Non, mais non.
Ils ont appauvri le pays, comme jamais depuis 30 ans. On passe derrière la moyenne des États européens.
C'est une euthanasie. Hein.
Enfin, là, ils ont appauvri le pays.
Un peu,
c'est incroyable. Ils l'ont déclassé par rapport aux grands défis de l'avenir. Les Français ne sont pas si heureux que ça, je n'ai pas l'impression. Ils sont malheureux. Ils n'ont pas de résultats. Ils nous avaient dit c'est la paix. Ils nous entraînent vers la guerre, mais de manière inquiétante. Et je vous le dis, c'est une folie. Une folie. C'est le suicide d'ailleurs du continent européen. Puisque c'est l'émergence des États-Unis et de la Chine en ayant poussé la Russie dans les bras de la Chine qui est une aberration géopolitique comme jamais. Alors là aussi, on me dit, oui, mais il ne faut pas que tu dises ça, on va dire que tu es trop pro-russe. J'en ai rien à faire. L'alliance France-Allemagne-Russie était la clé d'une Europe puissante au XXIe siècle. C'est la clé. Ils l'ont cassée. Donc je suis encore plus européen qu'eux. Je veux que le continent européen ne soit pas submergé migratoirement. Je veux que le continent européen soit fort face à la Chine et aux États-Unis. Donc je ne suis pas suspect d'être anti-européen. Je suis oui, acharné contre cette Union européenne qui est un régime corrompu, oligarchique, médiocre, bureaucratique, qui est en train de tuer nos nations européennes. Donc il y a un d'ailleurs, regardez, ça pète de partout. L'AFD va gagner un land en Allemagne. Donc il y a un moment où il faut maintenant dire les choses et il faut reconstruire. On peut tout à fait reconstruire des coopérations sur l'IA, comme Airbus, comme autres. Je suis pas hostile à ça, bien sûr. Parce qu'on va le caricaturer à chaque fois. Je vois d'ici les émissions. Alors vous êtes le candidat du Frexit, du repli sur soi. Enfin. Mais je crois que les gens.
On connaît.
Moi, je m'en fiche. Il faut que les Français reprennent le pouvoir.
Alors, Nicolas Dupont-Aignan, en attendant les Français, alors, il y a déjà les auditeurs de Radio Courtoisie qui s'impatientent. On va en prendre au moins deux ou trois.
Alors, une question qui ne fera pas plaisir. Votre principal adversaire n'est-il pas l'arrogance et la prétention de M. Asselineau de se considérer comme le seul et unique défenseur de la France?
Écoutez, être candidat à la présidentielle, c'est très difficile. Il faut 500 signatures. Je les ai eues trois fois, mais je ne suis pas encore sûr de les avoir. Mais s'il y a un seul souverainiste qui peut les avoir, c'est moi. Mais je ne les ai pas encore. Donc, moi, je respecte tout à fait François Asselineau. Je ne dis jamais de mal de lui. Et heureusement, parce que si j'en disais autant qu'il en dit de moi, j'aurais du travail.
Ça vous occupera plein temps.
Je ne dis du mal de personne. Je veux rassembler les souverainistes. Je veux qu'il y ait une candidature de sortie de l'Union. C'est simple. Et je veux mettre le débat, l'éléphant, au milieu de la pièce. Mais je n'ai pas encore mes signatures, donc j'ai du boulot, il faut que j'ai mes signatures, ils vont tout faire pour que je ne les ai pas, et ce n'est pas gagné. Donc, tout ça, c'est dérisoire. Donc, que les conférences de François Asselineau sont remarquables, qu'il m'aide plutôt que de me tirer dans le dos.
Alors, une autre question qui est très précise. Taxer les grosses retraites, c'est-à-dire les désindexer de l'inflation, selon le projet, je ne sais pas
si... Ah non, jamais j'ai eu ce projet.
Ok. Voilà, parce que...
Jamais.
Très bien, alors, on va répondre à cet auditeur, voilà, qui
l'a alors, je vais dire,
avec le programme de quelqu'un d'autre.
Et il confond parce que je suis contre la désindexation des retraites pour une raison très simple. C'est qu'il y a un contrat. L'État a signé un contrat avec des gens qui ont travaillé toute leur vie. Désindexer les retraites, quel que soit le montant, c'est rompre un contrat de confiance. C'est comme ne pas rembourser sa dette. Donc, je ne sais pas qui a dit ça, c'est M. Édouard Philippe ou M. Attal. Mais c'est pas moi. Jamais.
Allez. Alors, ça me plaisait bien, moi, pourtant, ça.
Non, parce que les retraites, vous avez cotisé...
Parce que Arthur, il est tout à fait...
Non, mais je comprends politiquement, c'est soit dangereux,
non,
parce
c'est
que
pas,
ça
non,
vote
non,
massivement.
Non,
mais...
non, excusez-moi, non.
Ah si, c'est vrai.
Aussi. Non, vous avez cotisé toute votre vie. Vous avez le droit à votre retraite. Sinon, il n'y a plus de confiance dans l'État.
Mais quand il n'y a plus rien, on fait comment?
Mais je suis désolé, il y a eu 40 milliards pour l'Ukraine. Il y a 15 milliards par an... pour l'Union européenne. Il y a 14 milliards par an pour des éoliennes qui servent à rien et qui coûtent 4 fois le prix de l'électricité nucléaire. Il y a 20 milliards par an pour des fausses cartes vitales. J'ai écrit un livre, où va le pognon. Il y a 100 milliards d'économies demain matin.
Mais il y a 3500 milliards de dettes. Donc c'est-à-dire qu'il faut ça plus d'autres choses.
Non, nos retraités ont travaillé. Ils méritent leur retraite. C'est pas négociable. Et on ne construit pas un pays en mettant les retraités dans la misère. Ça, c'est pas possible.
Pas dans la misère.
Si, dans la misère. Ils ont travaillé. Le système des retraites doit être respecté. C'est la base de tout. C'est comme la dette. C'est le clair. Et il y a l'argent pour le prendre. Je peux vous assurer qu'il y a l'argent. Ça, c'est pas possible. Il faut s'occuper. Sinon, on va partir dans un système qui va coûter beaucoup plus cher aux Français, comme le système des mutuelles, qui coûte une fortune. Parce qu'on a développé des mutuelles qui se gavent sur les pauvres gens. Et là aussi, je vais sortir les trucs sur les mutuelles, vous allez voir.
Alors, les mutuelles, faut savoir qui sont derrière les mutuelles.
Tout à fait.
C'est très intéressant de voir qui est derrière les mutuelles.
Qui est derrière les mutuelles, Jean-Yves Le Gallo?
Il suffit d'aller à Niort. À Niort, vous avez des grands bâtiments, des grands immeubles. Et au sommet de tous ces bâtiments, de tous ces grands immeubles, qui ne sont pas très beaux, c'est l'architecture brutaliste, vous avez le nom d'une mutuelle avec un triangle qui surmonte le nom de la mutuelle.
Voilà. On va en parler tout
donc
à l'heure.
C'est tout à fait simple. qui contrôle les mutuelles?
La rue Cadet.
C'est la franc-maçonnerie. Voilà,
écoutez, moi, la question très simple que je pose, c'est les frais de gestion des mutuelles. Est-ce que vous trouvez normal que j'ai dans ma ville des petites mamies qui ont 850 euros de retraite par mois, qui payent 80 euros de mutuelle pour financer un bateau qui fait le Vendée Globe ou acheter un château bordelais.
Bah, si c'est le Vendée Globe, ça va.
Oui, parce que oui, c'est notre ami Philippe. Oui, mais non.
Oui, mais quand même.
Ou financer des tracts pour l'euthanasie.
Oui.
C'est quand même assez audacieux.
C'est audacieux.
Alors, c'est faire des économies. Donc là, ça peut se comprendre.
C'est complètement ça. Enfin, c'est une variable de, justement de la réforme des retraites, l'euthanasie.
Enfin, c'est vrai qu'on n'adhère pas à une mutuelle pour ça, quand même.
À la base, non. A priori, le rupture de confiance, là, moi, je la sens bien.
Bah, alors, revenons. Non, mais je fais une parenthèse Nicolas parce que là, l'été a été tragique. La décision du Conseil constitutionnel est quand même. Moi, j'attends de voir le décret d'application de la loi sur l'euthanasie. Quand vous allez aller à l'hôpital. Vous allez dans quel service? On vous met à quelle porte? Hein? Non, mais c'est gravissime.
Et puis oui, parce qu'il y a tout ce qui n'a pas été pensé, c'est qui produit le poison. Non, mais des trucs très concrets, quoi. Qui produit le poison? Est-ce que la personne qui... Parce qu'au départ, sur la première loi, il devait... Non, mais en plus, c'est pas une blague. C'est-à-dire que est-ce que ça rentre dans un marché public ou pas? Est-ce qu'il y a concurrence? Est-ce qu'il y a négociation? Ça se passe comment? Qui vérifie? Est-ce que, comme dans la première loi... Mais parce que tout le truc concret, ils l'ont pas mis. Hein.
Non, mais
là, il va falloir le mettre, le truc concret. Dans la première loi, il y avait une personne qui était dédiée à la... Au cas où la piqûre se passait mal... Parce qu'elle peut mal se passer, c'est-à-dire qu'on survit.
C'était l'oreiller alors.
Oui. Et donc, dans certains pays, ils ont fini à l'oreiller, en effet. Mais tous les trucs très concrets...
D'ailleurs, j'aimerais que chaque candidat... Vous pourriez demander ça, vous les journalistes, que chaque candidat à la présidentielle donne sa position. Moi, je veux revenir sur cette loi. Non, mais je pense que c'est important que les Français sachent quels sont les candidats qui veulent revenir sur la loi ou
c'est
pas.
C'est vrai, absolument.
Enfin, si une élection présidentielle ne sert pas à déterminer les principaux enjeux et quelle est la position de chacun sur les enjeux...
Oui, et puis surtout à arrêter d'être dans cette logique d'effet cliqué qui consiste à dire maintenant que c'est fait, on ne peut plus revenir. Si, en fait, on peut toujours revenir sur quelque chose.
On peut revenir sur la loi sur l'euthanasie, on peut très bien revenir à la loi Leonetti, on peut très bien revenir à un vrai développement des soins palliatifs, etc., etc.
On peut aussi arrêter le regroupement familial dans un autre genre de suicide.
Tout à fait.
De suicide.
Ça, c'est plus simple.
Oui.
Alors, c'est plus simple. Non, parce que ça, c'est le Conseil d'État qui est le Conseil constitutionnel.
Référendum.
Après le Conseil d'État, alors c'est vrai que c'est...
Tout le monde le critique.
Ouais.
Autant le Conseil constitutionnel interprète de manière délirante le droit. Parfois le Conseil d'État aussi, mais le Conseil d'État aussi prend aussi les lois votées et les... Donc c'est aussi aux parlementaires d'être un peu plus rigoureux.
Oui, mais les lois votées, elles ne sont pas votées par les parlementaires. Même si vous l'avez été, elles sont votées par le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Vous regardez l'essentiel des lois sur l'immigration, par exemple, ou la sécurité, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel.
Oui, enfin...
Où le législateur s'est auto-censuré.
N'exagérons
au
pas non plus, parce que je me souviens, Jean-Yves Le Gallou, que notre dénommé Rachida Dati a été la première... à par exemple faire une loi où il n'y avait pas de peine de prison les deux premières années, alors que pour vider les prisons, que c'est tous les parlementaires l'ont voté. Donc moi je me souviens quand même, et j'ai pas été très populaire chez les Sarkozystes, parce que je comprenais pas, moi j'avais été élu comme député sur un programme, et on votait exactement l'inverse. Donc, vous voyez, hein.
Oui, mais
d'ailleurs il y a une justice, parce que
toute loi laxiste... n'est pas censuré par le Conseil constitutionnel.
Oui, voilà.
Donc là, le parlementaire est libre, mais toute loi restrictive, il n'est pas libre parce qu'il s'autocensure, et s'il ne s'autocensure pas, il est censuré par le Conseil constitutionnel, comme on l'a vu dans la loi Darmanin-Retailleau, qui honnêtement avait un contenu assez faible, mais dont le faible contenu a quand même été censuré.
Mais le résultat de tout ça, c'est quand même l'impuissance publique. Et l'impuissance publique mène à la désillusion, à l'abstentionnisme, et on revient à la case départ.
Alors, on va revenir aussi à la question d'union des droites, parce que donc on a évoqué ce gouvernement un peu rêvé que vous évoquiez. Ça pose quand même, dans la réalité concrète, la question de l'union des droites pour de bon. Vous êtes le premier à avoir appelé à soutenir Marine Le Pen, par exemple, au second tour d'une élection.
Je ne regrette pas.
Est-ce que,
je ne change pas d'avis.
Par exemple, dans le futur, on peut imaginer encore, en gardant chacun ses distinctions, en gardant chacun ses particularités, son indépendance et son parti, que vous puissiez revoir à nouveau des accords avec le RN. Il n'y a pas que la présidentielle, il y a aussi les législatives, les municipales. Il y a mille choses qui peuvent favoriser une union des droites, qui n'est pas forcément la fusion.
J'ai toujours été favorable aux unions, tout le monde le sait. J'ai toujours été favorable à la diversité de premier tour pour que chaque courant d'idées pèse et qu'ensuite le meilleur gagne et qu'il y ait une union au deuxième tour. J'ai jamais changé d'avis.
Et pour le troisième tour, que seront les législatives ?
Sur les législatives, faut-il encore que le parti amiral accepte des partenaires ?
Et vous avez des négociations en cours ?
Non.
Honnêtement, on peut dire que Nicolas Dupont-Aignan a été très unioniste,
ah mais oui,
et qu'il n'a pas été bien payé de retour. Voilà, c'est ça la réalité.
La réalité, voilà, je ne veux pas polémiquer. Je n'en dis pas plus parce que moi, je vais vous dire, le passé est mort, j'ai fait mon devoir, j'en ai pris plein la gueule et je ne le regrette pas. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris certains, c'est que je l'ai fait par conviction.
Oui.
Et beaucoup ont cru que c'était par intérêt. Et je l'ai fait par conviction. Donc, voilà. Et à partir du moment où le RN revient et renonce à cette sortie de l'Union et à un programme souverainiste, il est normal que je défende un programme souverainiste. Et puis, on verra le nombre de voix. S'il y a énormément de voix sur ma candidature, eh bien ça incitera au moins le RN à revenir à des temps meilleurs. Oui. Et puis, sait-on jamais, dans la vie, tout peut arriver. Peut-être que les Français auront envie de sortir de l'Union et me choisiront.
Alors, justement, c'est un peu le dernier sujet.
Donc moi, je ne pars pas pour faire la figuration. Je pars pour offrir aux Français une sortie de l'Union. C'est clair, net, précis.
Il nous reste 10 minutes. Il nous reste deux sujets, Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Donc je rappelle aux auditeurs que vous êtes l'auteur de « La liberté ou la mort » paru chez Fayard. C'est un livre qu'il faut se procurer. Et là, j'avais pensé à vous en voyant le résultat des élections, enfin du référendum justement, sur l'entrée ou non dans l'Union européenne de l'Islande. Ça a été un non à 52,5% de mémoire. Et vous parliez de l'abstentionnisme. Il y a eu 82,5% de participation. Ce qui est quand même tout à fait considérable. Alors voilà, est-ce qu'on peut avoir votre point de vue ?
C'est très simple. Un pays de 400 000 habitants n'a pas peur d'être libre. Parce qu'à chaque fois que je parle de liberté dans les milieux oligarchiques, on me répète, oh, bon, la France, tout petit, et Singapour, combien d'habitants ? Et Israël, combien d'habitants ? Et le Maroc, combien d'habitants ? Et l'Algérie, combien d'habitants ? Et tous ces pays ? Et la Suisse ? La Suisse, je lisais un article dans le Figaro aujourd'hui, ou Le Monde, je ne sais plus, le Figaro, je pense. Salaire à Genève d'une infirmière, 6 500 francs suisses ? Ou 5 900 euros, je ne sais plus. Bon, bref, aïe. Pour 42 heures de travail. Mais ce que je... C'est ça, cette... Et ça, c'est pas... En fait, c'est assez ancien dans la mentalité française. Alors, je reviens toujours à ma lecture de l'été qui m'a bouleversé. Qui racontait Thiers. Je ne savais pas que Thiers, après la défaite de 70... était le premier à dire « Oh, il faut renoncer à l'Alsace-Lorraine, il faut accepter d'avoir le second rôle derrière les Allemands, c'est notre... Nous ne sommes pas bons pour diriger l'Europe, il faut être... Voilà. La France a toujours eu des collabos partout. C'est dans le vieux fond français. Et c'est terrible, parce que c'est... Voir un petit peuple perdu au milieu de l'Atlantique, de pêcheurs, 400 000 habitants qui dit non à cette monstruosité... Et qui a le courage de vivre libre ? Est-ce qu'ils vont alors arriver l'apocalypse ? Non.
Et qui l'a fait notamment en dénonçant la pression de l'Union européenne et des gouvernements de l'Union européenne pour forcer le oui.
J'aimerais tellement que les Français réalisent qu'ils ont beaucoup d'atouts, qu'un pays de 70 millions d'habitants comme la France peut
quand
même...
70 millions de Français.
Il faut qu'ils le deviennent.
Oh non, il faut qu'on passe à 60 millions.
Ou alors qu'ils repartent.
Mais pour nos Islandais, comment vous expliquez ce
refus ? Il faut que nos compatriotes... Oui, mais je vais vous dire, je pense que ce qui est terrible, c'est que c'est ça le drame, à la différence des Anglais. Et pourquoi le Brexit est passé et pas en France ? Enfin, pas en France, il n'y a pas eu le même... C'est parce que l'élite anglaise a quand même un sentiment patriotique beaucoup plus fort, quand même. Ah, quand même.
Que l'élite française. Aussi.
Comment ?
Il y a peut-être une histoire d'île, c'est quand même plus facile de résister quand on est une île, quand on est coincé entre des Teutons et des Italiens.
Oh oui, enfin, Richelieu nous a appris qu'on pouvait s'en sortir.
On pouvait renverser. On peut toujours s'en sortir,
mais c'est plus difficile qu'une et beaucoup d'autres.
Sur une île.
Non, mais la vraie question est là. La vraie question, c'est comment, j'en parle dans mon livre avec la volonté de vouloir, d'Anna Arendt. C'est très intéressant. Comment à un moment on peut redonner à un peuple la volonté de vivre ? Et je pense que c'est dans la difficulté que le peuple va retrouver la volonté de vivre. Et je suis très impressionné par le nombre de jeunes. J'ai vu en vacances le petit-fils d'amis, 21 ans, Il vient me voir, il me dit, moi, ce qui m'ennuie chez vous, c'est que vous n'êtes pas assez souverainiste.
Ah bon,
dis, ah bon, ah bon, parce que vous ne voulez pas sortir de l'Union. J'ai dit, vous regardez trop les films d'Asselineau. Non, s'il y en a, alors je vais envoyer mon livre. Mais non, mais il y a une jeunesse qui a compris. Il y a toute une jeunesse qui a compris. Moi, je pense que la France peut s'en sortir. Voilà. Mais encore faut-il que l'élite le veuille.
Alors, je pense quand même, moi, je crois beaucoup à la thèse, il y a toujours eu le sursaut.
Oui, enfin, il tarde.
Ben, un, il tarde. Deux, il y a toujours eu le sursaut, mais avec une population qui n'était pas changée. Or, aujourd'hui, on a une population qui est en partie changée, ce qui rend le sursaut beaucoup plus difficile. Même en 40, de 40 à 44, les Allemands, ils n'étaient jamais que 200 ou 300 000 au grand maximum. Bon, voilà. Donc,
oui, mais où j'ai un point parfois de désaccord avec vous, Jean-Yves Le Gallou, c'est que j'ai vu, notamment pendant les manifestations Covid pour la liberté, des Français récents qui étaient avec le drapeau français, qui étaient patriotes, ouais, et que parfois des Français de souche étaient un peu collabos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ?
Non, mais ouais.
Donc j'ose espérer qu'une partie de ceux qui nous ont rejoints puissent devenir patriotes. Et en revanche, je suis convaincu que les délinquants et ceux qui sont plus heureux en Algérie et au Maroc doivent repartir en Algérie, au Maroc, et que ce serait très bon pour leur pays. Donc je pense qu'on ne peut pas généraliser à outrance.
Non, ça je suis d'accord.
Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on pourrait évoquer peut-être ce qui va être un peu votre événement de rentrée, c'est la fête des libertés. C'est un peu les universités d'été de debout la France, si je puis dire. Qu'est-ce que vous prévoyez et comment ça se passe concrètement? Est-ce que tout le monde est bienvenu déjà?
Bien sûr, samedi 19 octobre, en revanche, il faut s'inscrire sur le site dupontaignan.fr ou Debout la France. En fait, c'est venu en voyant la fête de l'humanité. Je me suis dit, c'est quand même gonflé, ceux qui ont massacré tant de gens dans l'histoire, qui font une fête de l'humanité, le Parti communiste, qui est un événement, un grand événement. Alors, je n'ai pas l'argent et les moyens de la fête de l'humanité, mais je me suis dit, si on créait une fête de la liberté. Voilà, donc c'est la première édition dans ma ville, ailleurs, dans l'Essonne, c'est pas loin, 20 kilomètres. Et je me suis dit, on va faire... parce que c'est la question clé. Est-ce que les Français veulent encore être libres? Voilà. Et donc, on va organiser des tables rondes. Il y a deux tables rondes qui, pour moi, sont fondamentales. C'est celle sur la liberté individuelle. Comment sauver nos libertés individuelles? Et puis une deuxième table ronde, comment sauver la liberté de la France, enfin, comment reprendre notre liberté. Voilà. Et puis il y aura des animations. Il y aura des influenceurs. J'ai voulu inviter aussi des influenceurs qui ont été menacés et qui ont des audiences incroyables. Il y aura Jeanne de Lorraine, que j'aime beaucoup. Il y aura Charb. Il y aura des gens comme ça. Des gens un peu de tous horizons. Magella, des gens... Des Françaises et des Français qui ont émergé récemment par cette liberté qu'il y a sur les réseaux sociaux, et qui n'ont pas obligatoirement de culture politique, et qui ont un bon sens et une liberté de ton et d'analyse impressionnante, que n'a plus le personnel politique. Et je me suis dit, et ils ont des millions de vues, des dizaines de millions de vues tous les jours. C'est incroyable!
Alors, si les auditeurs de Radio Courtoisie veulent venir à cette fête...
Ils s'inscrivent sur le site de Debout la France.
Est-ce que c'est payant?
Non, c'est gratuit.
C'est gratuit.
En revanche, on aura besoin de...
Comment on fait pour venir hier?
Il y a le RERD quand il marche. Voilà.
D'accord. J'ai vu que vous organisez des navettes gratuites. Pardon d'être un peu pratique,
non, la navette, c'est pour arriver au RER. On n'a pas les moyens de faire des navettes jusqu'au bout. Non. C'est une première édition. Mais la libération de la France... vis-à-vis de Bruxelles, c'est aussi une libération vis-à-vis de toutes nos contraintes, libération vis-à-vis des charges, libération vis-à-vis de la bureaucratie, libération vis-à-vis de nos schémas mentaux dans la tête. Il y a du boulot.
Il y a du boulot, effectivement. Une dernière question.
Si vous vous présentez aux élections, on sent qu'on nous a bien écoutés, envisagez-vous de supprimer toute double ou triple nationalité?
Ah, suppression du droit du sol, c'est évident. Je suis plutôt favorable à la suppression de la double nationalité. On n'a qu'une nationalité, comme les Chinois. Très franchement, voilà, je le pense.
Et ben voilà. Allez, une ultime.
Et j'ai une mesure auquel je tiens beaucoup, qui est toute simple, c'est l'exonération. Alors ça n'a rien à voir, mais je la mets parce qu'il nous prépare la spoliation. C'est l'exonération de tout droit de succession sur la résidence principale. Ça, je trouve que c'est une mesure géniale et simple. Et les 100 premiers hectares de terres agricoles, comme a fait Trump aux États-Unis où il a exonéré les 1000 premiers hectares. Chaque Français doit se dire, si j'économise pour mon foyer, je pourrais transmettre mon bien. ça ne favorise pas les riches, les moins riches, tout le monde. Ça, c'est une mesure que j'aimerais voir reprise.
Eh bien, écoutez, sur ces propos, on n'a plus le temps, malheureusement, parce que nous sommes limités pour la production des podcasts. C'est malheureusement très technique, mais il faut que ça s'arrête à 30 pile, sinon on n'aura pas l'intégralité de votre intervention.
Alors j'ai loupé Alexis Poulain, mais je l'écouterai.
Eh ben, avec joie.
Il est le bienvenu le 19 septembre. Je l'avais invité d'ailleurs.
Eh ben, il écoutera la rediff et il aura toutes les conditions pratiques pour venir vous rencontrer. Nicolas Dupont-Aignan, merci encore. Donc vous étiez venu présenter La Liberté ou la Mort, publié aux éditions Fayard, également présenté et confirmé votre candidature à l'élection présidentielle. Et enfin annoncer de manière plus immédiate la rentrée politique de Nicolas Dupont-Aignan, donc évidemment, et de Debout la France à la Fête de la Liberté le 19 septembre à Hyères. Merci encore et j'espère à bientôt.
Merci, à bientôt.